Vous écoutez Amour, Santé et Liberté, le podcast d'AIMI, la mutuelle des étudiants et des jeunes actifs. Dans cette émission, nous donnons la parole à des spécialistes de la santé et de la prévention des risques, mais également à tous les étudiants porteurs de projets qui souhaitent agir concrètement dès aujourd'hui pour construire le monde de demain. Si vous aimez ce que vous écoutez, et nous l'espérons, retrouvez régulièrement de nouveaux épisodes sur toutes vos plateformes de streaming audio favorites et sur notre site web aimi.care. Bonne écoute! Bonjour Arnaud Gouillard, vous êtes directeur d'établissement en santé mentale et responsable d'un dispositif de soutien et d'écoute des étudiants. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce podcast Amour, Santé et Liberté pour parler un peu de la représentation et des clichés de la santé mentale, parce qu'ils sont encore vraiment nombreux. Et j'aimerais bien qu'on commence par définir un peu ce que c'est exactement que la santé mentale.
Alors c'est intéressant parce que très souvent, on nous pose la question et la santé mentale, qu'est-ce que c'est ? Dire qu'il n'y a pas de définition unique de la santé mentale. Moi, j'aime bien répondre en disant que finalement, c'est de dire peut-être qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, elle est constitutive de la notion de santé. L'OMS, pour définir la santé, utilise une définition au sens large qui décrit la santé avec ses trois dimensions principales et nous dit la santé mentale, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et c'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Très souvent, quand tu penses santé mentale, bah, tu penses maladie mentale. Or, c'est vraiment pas une définition négative qui est proposée par l'OMS, c'est ce qu'on appelle une définition positive de la santé mentale. Et donc, la santé mentale ne se résume pas à une absence de troubles psychologiques. Chaque personne dispose d'une santé mentale. Et cette santé mentale, elle va évoluer en fonction des circonstances, des étapes de la vie. Donc, certaines personnes, quand ils parleront de santé mentale, ils parlent aussi de bien-être psychologique, de bien-être émotionnel. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un état qui est figé. C'est plutôt quelque chose qui relève véritablement du bien-être en constante évolution. Et surtout, ce qu'on aime beaucoup en santé mentale, c'est la notion d'équilibre. Donc, c'est un équilibre présent chez l'individu.
D'accord. Donc, un équilibre présent chez l'individu. Et surtout, ce qu'on retiendra, c'est que santé mentale n'est pas égale maladie mentale. Et ce qui veut dire que la santé mentale, ça s'entretient tous les jours, finalement.
Complètement. C'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser. Elle peut surmonter des tensions dans sa vie quotidienne, elle peut accomplir un travail, elle peut contribuer à la vie, à sa vie personnelle, mais aussi à la vie de sa communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle nous dit aussi, qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé mentale ? On est en bonne santé mentale si on est capable de réaliser son potentiel dans sa vie de tous les jours. On est en bonne santé mentale si on est en capacité d'avoir une maîtrise de sa vie. Si on se sent capable de surmonter des tensions qui sont normales dans la vie de tous les jours. Et puis, dernier point qui est extrêmement important aussi dans la manière d'appréhender la santé mentale, c'est si on est capable de jouer un rôle actif au sein de sa famille, dans son travail, dans sa communauté ou même avec ses proches. Et c'est ce qui fera véritablement qu'on est en bonne santé mentale si on arrive à cocher toutes ces cases.
Et comment est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour cocher toutes ces cases, justement, dans la vie de tous les jours ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider ? Parce que là, finalement, on parle d'un état d'accomplissement de soi et d'un état de bonheur et de bien-être. Mais comment est-ce qu'on arrive à cet état, concrètement ?
Alors, ouais, c'est important. Et c'est comment on cultive sa santé mentale ? En fait, cette question, elle est très importante parce que c'est aussi de se demander qu'est-ce qui nous protège, qu'est-ce qui nous enrichit d'un point de vue de la santé mentale. Et là, la littérature, elle est très abondante. Il y a différents leviers sur lesquels on peut agir soi-même pour améliorer sa santé mentale, pour la protéger, pour la développer. L'un des premiers leviers, ce que je commencerai à dire, c'est peut-être qu'il y a des leviers physiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours tendance à séparer la santé mentale de la santé physique. Or, les choses sont absolument pas scindées, puisqu'il y a vraiment une articulation. Et vraiment, dans un premier temps, les premiers leviers en santé mentale, c'est les leviers physiques. Rester actif, bien manger, éviter les excès de substances de nature psychotrope. Je pense notamment les excès d'alcool. Donc ça, c'est des choses qui relèvent, on pense plus à des comportements, à la santé physique. Et en fait, ils ont un lien extrêmement étroit avec la santé mentale. Autre aspect, c'est la relation avec l'autre et rester en contact avec ses proches, parler de ses émotions, c'est quelque chose de très important. Savoir demander de l'aide quand on en a réellement besoin. Autre aspect, c'est aussi s'investir auprès des autres. Ça aussi, c'est un des leviers majeurs de notre santé mentale. Le lien social a un poids extrêmement important dans la santé mentale. Donc tout ça, ça relève de l'entraide, de la solidarité, s'investir dans sa communauté, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec nos amis, et voire même à l'échelle d'une communauté de vie, d'un quartier, d'une association locale. Puis dernier point, mais qui est un vrai chemin dans la vie de chacun, qui est l'acceptation de ses défauts, l'acceptation de ses difficultés, l'acceptation de ses doutes. Personne n'est parfait, moi, ce que je dis souvent, et croire l'inverse, c'est aussi d'une certaine façon, c'est en fait se dévaloriser, se dire qu'on est moins bien que les autres. À l'inverse, c'est être conscient de sa valeur, reconnaître ses atouts, ses forces, s'en réjouir au quotidien, et puis cultiver son estime de soi. Alors quand je dis vraiment l'idée d'un chemin, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, finalement, ces différents leviers que j'ai rapidement dressés, c'est des leviers qu'on va activer, qu'on va développer, et ça constitue, comme je disais tout à l'heure, une manière finalement de, à la fois d'entretenir sa santé physique sur certains aspects, mais surtout d'entretenir sa santé mentale. On parle souvent d'hygiène de vie, c'est aussi ça l'hygiène de vie, c'est tous ces facteurs qu'on va mobiliser, sur lesquels on va pouvoir agir individuellement au sein de son environnement.
Et donc toujours ce fameux concept d'un esprit sain dans un corps sain, mais finalement quand on revient là-dessus et qu'on y repense, moi par exemple quand je repense à quand j'étais étudiant ou même quand j'étais au collège, au lycée, on a toujours opposé les sportifs et les intellectuels. Et finalement, on relie très peu l'ensemble. Enfin, aujourd'hui, de plus en plus. Et je trouve que même finalement, en avançant dans un cycle d'études supérieures, on commence à le relier et à comprendre que les deux vont ensemble. Mais il y a encore pas mal de représentations, je pense, qui ont la vie dure à ce niveau-là.
Ouais, tout à fait. Des idées reçues. Tu parlais des sportifs. Depuis maintenant un an et demi, la crise, elle a révélé. Ce sujet peut-être au plus grand nombre, mais les sportifs sont peut-être parmi les acteurs qui sont les plus exposés en matière de santé mentale. Alors c'est vrai que ces dernières années, la santé mentale dans le milieu sportif est apparue quand même au grand jour, et maintenant les sportifs pour la plupart sont dans cette vigilance. Ils ont des personnes qui les entourent aussi sur ce sujet-là précisément. Il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale, faire face aux difficultés de la vie. Et ça, je crois que c'est assez révélateur de notre époque. Et je crois qu'on est tous de plus en plus préoccupés par ce sujet-là et comment on peut soi-même agir avec nos propres ressources et parfois, bien sûr, avec celles de l'entourage aussi.
Et quand on parle de représentation et de clichés sur la santé mentale, ce qui me vient tout de suite en tête personnellement, c'est le fait que on parle de santé mentale uniquement si on est malade. Et si on en parle d'ailleurs, ça veut dire qu'on est malade. Et donc, on est toujours sur cette espèce de tabou. Moi, je me souviens surtout des personnes de l'âge de mes parents, par exemple, pour lesquelles c'était, et c'est encore impossible de parler de santé mentale parce que c'est un tabou extrêmement profond.
Oui, la santé mentale, on a tendance, mais comme je disais tout à l'heure, sur la question de la définition, quand tu entends quelqu'un qui parle de la santé mentale, on a tout de suite soi-même l'impression qu'il est malade, qu'il a un trouble psychique, qu'il doit consulter. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la santé mentale, c'est pas que les fous, quoi. C'est la santé mentale, ça concerne tout le monde. On peut tous, à un moment donné dans notre vie, avoir une difficulté. Alors, je ne vais pas dire le terme bobo, mais quelque chose qui relève plus d'une difficulté passagère dans sa vie de tous les jours. Ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est le fait que la santé mentale aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué en tant que professionnel, mais je pense que tout à chacun doit aussi l'entendre, c'est que c'est le premier problème de santé publique devant les maladies cardiovasculaires, devant le cancer. Ça a un coût économique qui est majeur, c'est plus de 110 milliards d'euros par an au niveau de du coût économique et social en France, bon, ne serait-ce qu'en France, hein. C'est un coût extrêmement majeur.
Alors que la couverture média, finalement, reste assez faible, j'ai
l'impression. Elle reste assez faible. Ben, on est tous, quand tu parles cancer, par exemple, tout de suite, on a tous un proche dans notre tête qui est concerné. Par contre, santé mentale, on a l'impression que ça ne concerne personne.
Mmh. Quand on parle de dépression, on va avoir ce cliché de « ouais, il n'est pas dépressif, il est juste feignant ».
Complètement. Alors qu'en fait, dans notre vie au quotidien, j'ai même envie de dire dans notre journée, on peut tous à un moment donné avoir une difficulté, être mis en difficulté, et ça génère des ruminations, des préoccupations. Parfois, elles s'installent dans le temps, elles vont perturber le quotidien, l'hygiène, le sommeil. Et ça, c'est vraiment un grand nombre de personnes qui sont concernées. Donc, la première chose, c'est de dire oui, finalement, la santé mentale, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui peut concerner tout le monde à un stade dans notre vie, à un moment donné, face à une difficulté. En fait, à quel moment la santé mentale devient véritablement une maladie et se caractérise, ça, c'est une question importante parce que finalement, c'est davantage un continuum d'état qui peut potentiellement se dégrader. Et en fait, ce que nous, on cherche à promouvoir, c'est effectivement l'intervention précoce. Donc, ce que nous, on préconise, c'est effectivement d'être alerte par rapport à sa santé mentale, de repérer finalement les premiers signaux d'un mal-être et de pouvoir agir le plus précocement possible. Ce qui va surtout être difficile, c'est effectivement quand le trouble s'installe, perdure, et quand la personne, quand le jeune, quand l'étudiant n'ose pas demander de l'aide pour des tas de raisons. Et c'est là où les difficultés sont extrêmement installées, sont particulièrement souvent difficiles à résoudre, même si on peut apporter du soutien. Donc nous, ce qu'on préconise et ce qui est recommandé dans la littérature, c'est de pouvoir en parler le plus tôt possible. Et vraiment de pouvoir entretenir déjà soi-même sa santé mentale. Et puis quand il y a besoin, demander de l'aide, demander des ressources, c'est extrêmement important. On va éviter que le trouble s'installe et nécessite parfois des prises en charge beaucoup plus lourdes.
Alors finalement, peut-être un peu comme de la façon dont notre médecin généraliste nous fait faire des check-up sanguins, on pourrait imaginer des check-ups de santé mentale, mais qui sont faits au plus proche par les généralistes, par les infirmières scolaires, toutes ces choses-là.
Ouais, alors ça c'est ouais. Alors, en disant ça, tu évoques aussi une représentation parce que c'est qui me vient là. Hein, c'est aussi la représentation que la santé mentale, c'est tout de suite le sujet d'un professionnel,
d'un ça spécialiste, aussi, ouais.
D'un spécialiste. Et en fait, non. Moi, de la même façon que de dire la santé mentale, ça concerne tout le monde. Bah, la santé mentale, normalement, ça devrait concerner tout à chacun. Finalement, pourquoi alors pas forcément avec les mêmes retours attendus. Mais un enseignant, pour moi, un enseignant, c'est un professionnel qui devrait être en mesure d'apporter, on va dire, un premier niveau de conseil et être en mesure d'être, par exemple, de savoir orienter. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. De la même façon, on devrait être en mesure de pouvoir parler librement, sans être étiqueté de fou, à nos proches de notre santé mentale. À nos amis. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est non seulement difficile, voire tabou, voire
qui peut mettre en difficulté sociale, voilà, finalement.
Qui peut mettre en difficulté sociale. On peut être jugé, on peut être étiqueté. Et ça, c'est absolument pas normal. On devrait, mais de la même façon que, je sais pas, quand tu es grippé chez toi, tu es pas bien, je sais pas, il y a quelqu'un qui nous appelle, qui nous demande de. Ben on dit, ben non, je ne peux pas, je vais pas bien parce que. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire aussi sur la santé mentale? Je veux dire, c'est en quoi ça serait plus grave ou plus tabou? Alors aujourd'hui, ça l'est, mais dans les faits, je vois pas pourquoi on opérerait cette distinction. Mais c'est vrai que le sujet au jour d'aujourd'hui, il est encore extrêmement difficile à aborder, y compris avec son médecin généraliste, hein, et avec nos proches, c'est pas simple. Donc parler de ses émotions, parler de son vécu, c'est aussi un des premiers leviers sur lequel tout le monde peut agir, oser en parler simplement à ses proches, à ses amis, alors pas forcément à tout le monde parce que c'est pas aujourd'hui simple, mais moi j'invite à en parler le plus librement possible comme un sujet comme un autre finalement.
Et d'ailleurs, en parlant d'en parler, en introduction, je disais justement que tu étais responsable d'un dispositif de soutien et d'écoute des étudiants. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, s'il te plaît?
Ah oui, tout à fait. On a eu la chance. Alors, je sais pas si je devrais commencer par ça, mais en tout cas, on a eu l'opportunité avec cette crise, de pouvoir, déployer un dispositif exceptionnel là, qu'on a déployé. Sur le territoire de Lyon. Alors, je dis on a eu la chance parce que ça a été une opportunité. Et puis, je pense que si on n'avait pas parlé autant de la santé mentale, on n'aurait pas eu cette opportunité-là. Et c'est vrai qu'on en est très content parce que peut-être pour la première fois dans l'histoire, pratiquement de la santé publique, on n'a jamais autant parlé de la santé mentale. Et là où c'est une chance, c'est que cette crise, elle nous permet aussi d'agir. Et la santé mentale, c'est resté trop longtemps un sujet finalement qu'on mettait un petit peu sous le tapis pour des tas de raisons, et alors même que c'est un sujet d'importance, et en particulier pour les étudiants. Donc on a eu la chance là en décembre 2020 de déployer avec le soutien de la métropole de Lyon un dispositif assez exceptionnel, puisqu'en fait il conjugue trois actions. Une action avec des entretiens auprès de psychologues que les étudiants peuvent mobiliser gratuitement, en visio, en téléphone, enfin des modalités extrêmement faciles en termes d'accès. Donc ça, c'est une première proposition qu'on a faite aux étudiants et ça a vraiment très très bien marché. On a proposé aussi des ateliers de prévention en ligne. Donc ça, comme je le disais tout à l'heure, la santé mentale, ça s'entretient et on peut agir très tôt. Finalement pour éviter que les situations se dégradent, mais aussi pour entretenir sa santé mentale, tout simplement. Et aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances sur des pratiques qui sont extrêmement efficaces pour notamment réduire le stress, faire face au stress des examens, comment on peut faire. Et l'autre aspect, c'est que les étudiants, mais comme n'importe qui, on est noyés d'informations. Et là où moi, je suis, en tant que professionnel, je suis particulièrement alerte, c'est qu'on a des... Aujourd'hui, la santé mentale, c'est aussi un sujet qui fait l'objet de pas mal aussi de fausses informations. Et l'objectif, c'est aussi d'accompagner nos publics sur des pratiques qui sont validées, qui sont reconnues. Alors, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est aussi qu'elles ont montré une efficacité. Et donc, on a proposé ces ateliers de prévention là sur un réseau social qui s'appelle Instagram, et ça fonctionne extrêmement bien. Et puis la troisième modalité qu'on a proposée là depuis décembre 2020, qui fonctionne aussi très bien, c'est directement d'aller sur les lieux de vie des étudiants, dans les écoles, les foyers de vie, les foyers de jeunes travailleurs. On a aussi des étudiants dans les foyers de jeunes travailleurs pour parler de la santé mentale, un sujet comme un autre, mais d'aller au plus près des étudiants, là où ils vivent, pour en parler, leur proposer des ressources. Et donc avec ces trois modalités, l'année dernière, on a touché plus de 10 000 étudiants qu'on a accompagnés sur la métropole de Lyon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent plus de 95% que ce dispositif, déjà, ils en sont très contents, mais surtout que ça leur est très utile dans leurs études. Et ça leur est très utile, notamment pour eux, dans leur vie de tous les jours, mais ça leur est très utile aussi dans leur réussite scolaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, quand on agit sur sa santé mentale, on agit aussi sur sa réussite dans les études, on agit aussi dans son insertion. Et ça, c'est tout l'enjeu de demain, c'est de montrer à quel point la santé mentale, c'est finalement un ingrédient indispensable pour la réussite de ses études, pour pouvoir avancer dans sa vie au quotidien. Et là-dessus, aujourd'hui, bah, le monde de l'enseignement est pas encore assez alerte là-dessus. Alors, ça change avec la crise et nous, on en est très contents parce que je pense que c'est important qu'on puisse apporter des réponses aussi aux étudiants.
Je pense que cette crise, comme tu l'as dit, bien malheureusement et en même temps bien heureusement, a permis de mettre un effet de loupe sur la santé mentale et de changer beaucoup de choses. On le voit même dans le monde du travail, où le management se réinterroge. Tout le monde se réinterroge sur la santé mentale. On essaye un peu de sortir de ces représentations un peu borderline de la réussite, où on devrait travailler tout le temps, énormément d'heures, où on admire dans notre société des gens qui doivent avoir une santé mentale assez catastrophique finalement, parce que enfin, on admire des personnes qui travaillent 90 heures par semaine et qui n'ont à côté, qui ont fait le choix de laisser de côté toute leur vie sociale, et c'est les modèles qu'on admire aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a aussi tout un travail à faire là-dessus. Tu parlais de live, parce que donc tu parlais d'Instagram, c'est vous faites un live depuis un compte Instagram, c'est ça?
Oui, voilà, on a un compte Instagram qui s'appelle Écoute étudiant. Métropole de Lyon. Alors c'est un compte qui est ouvert à tout le monde, hein, même si on parle forcément de ce qui se passe sur le territoire. Mais ce qui est intéressant sur ce compte, c'est que tu as à la fois des lives qui sont animés par nos professionnels avec des psychologues qui finalement abordent ce sujet de façon hyper simple avec les mots. Des étudiants avec du dialogue aussi avec les étudiants qui sont en ligne. Et ça, c'est super intéressant parce que ça dépasse un petit peu toute l'information qu'on a au quotidien. Et ça en donne peut-être, ça donne encore davantage une accessibilité en fait à cette information. Les psychologues illustrent ça avec du concret, du vécu, des exemples. L'autre aspect, c'est que sur ce compte, tu vas trouver aussi, on poste régulièrement des messages pour expliciter aussi, voilà, quoi faire, qu'est-ce que tu peux faire face à telle ou telle difficulté, qu'est-ce qui est recommandé, quels sont les acteurs à les solliciter. On présente aussi des dispositifs qui sont aujourd'hui insuffisamment mobilisés par les étudiants eux-mêmes. On a des dispositifs, je pense par exemple au chèque d'accompagnement psychologique qui est absolument pas connu encore. Je pense à la santé universitaire par exemple qui est rarement identifiée. Et puis aussi des acteurs qui agissent sur la santé mentale sans véritablement le savoir. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement la santé mentale c'est pas uniquement la question des psychologues ou des psychiatres, mais ça peut être par exemple des associations où tu peux t'engager. Donc on voilà des associations qui travaillent sur le lien social, donc on propose sur ce compte des tas de ressources qui permettent d'aller mieux au quotidien, quelle que soit finalement ta situation dans laquelle tu te trouves. Et ça c'est très riche et on en est très content parce qu'on a des très très bons retours. Sur ce compte, il attire beaucoup d'étudiants et je pense qu'il a vraiment une grande chance de perdurer parce qu'il est vraiment très utile.
C'est une super initiative. Et donc, tout ce dont tu nous parlais auparavant, toutes ces ressources, on les trouve aussi sur un site, par exemple, qui s'appelle Écoute étudiant Métropole de Lyon, comme le compte.
Alors aujourd'hui, on n'a que ce compte qui permet de ventiler pour nous au quotidien des informations auprès de la communauté du compte. Et puis c'est vrai qu'on à la demande, on peut aussi être sollicité, bien sûr, au niveau de notre établissement pour relayer des ressources face à une problématique. On est aussi là pour répondre à toute demande d'étudiants. Après, ce que j'invite dans un premier temps les étudiants à faire, c'est à mobiliser avant tout sur leur établissement d'enseignement les acteurs finalement qui doivent apporter normalement ces réponses. Je pense en premier lieu les acteurs de la vie étudiante, je pense en premier lieu aux acteurs de la santé universitaire, pour les établissements qui disposent de professionnels. Et puis après, on a des informations aussi auprès de certains sites qui peuvent être tout aussi intéressants. Je pense en particulier au site du Psychom, qui est un site qui dispose d'informations validées scientifiquement, et qui peut être tout aussi intéressant à solliciter.
Donc, on a parlé un peu des ressources,
On a parlé de sur quoi agir exactement en santé mentale pour aller mieux, pour le rappeler un peu. On a rappelé l'importance du sport, l'importance du bien manger, du bien dormir, de l'acceptation de soi-même dans son intégralité. Donc, c'est-à-dire de savoir accepter les bons moments et d'en être reconnaissant comme les moins bons moments et de se dire c'est normal, on a tous des coups de mou de temps en temps. Est-ce que j'en ai oublié ? On a rappelé également... Oui, j'en ai oublié, c'est sûr que j'en ai oublié.
Ce qui est intéressant par rapport à ça, mais peut-être pour compléter, puis peut-être pour reformuler, en fait, parmi tous les leviers que j'ai évoqués, il y en a un qui est majeur.
Et qu'on oublie, c'est l'être pas. Ensemble, c'est ça ? C'est le lien social. Ouais, voilà, c'est celui-là que j'ai.
C'est le premier déterminant de ta santé mentale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier déterminant de notre santé mentale, c'est les autres. Et ça, c'est un déterminant sur lequel on peut agir, que ce soit les autres, nos proches, nos amis, mais c'est aussi de l'engagement social. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important. Et puis en face, c'est toutes les questions autour de l'isolement, de la solitude. Aujourd'hui, les étudiants qu'on reçoit, par exemple les 10 000 qu'on a reçus l'année dernière, c'est des étudiants qui témoignent quand même pour une part non négligeable, c'est à peu près un étudiant sur quatre, qui témoigne d'un isolement, d'une solitude. Et on sait à quel point c'est certainement une des causes les plus importantes en matière de dégradation de la santé mentale, en matière de souffrance psychique. Et donc, si on regarde ce qui peut être fait par rapport à ça, la première chose à faire, c'est effectivement d'apporter... de permettre à l'étudiant qui se trouve en situation d'isolement d'identifier avec lui des ressources sur lesquelles il peut agir pour renforcer le lien social, que ce soit avec ses proches, que ce soit dans son environnement de vie. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, au sein des établissements, tu as énormément d'acteurs sur lesquels tu peux développer du lien social, acteurs associatifs, associations d'étudiants, mais aussi des associations qui sont souvent sur le territoire sur lequel dans lesquels tu peux aller t'investir, tu peux développer des choses. Et ça, c'est une manière finalement aussi d'entretenir sa santé mentale. C'est pas seulement pour se réaliser, c'est aussi pour finalement apporter sa contribution, mais aussi pour son hygiène de santé mentale directement qu'on peut agir. Voilà. Et donc ça, c'est souvent des déterminants sur lesquels nous, on est amené à accompagner les étudiants. C'est pas seulement d'aller voir un psy, c'est pas seulement de... C'est aussi ça, la santé mentale, c'est aussi les autres, c'est le lien avec les autres.
Et quand tu parles de lien avec les autres, tu parles ici bien d'un lien concret et réel, parce que ça m'amène à penser aux réseaux sociaux. Parce que fatalement, les réseaux sociaux sont censés permettre de conserver ou de développer du lien, soit existant, soit de créer du lien nouveau. Mais pour autant, on se rend compte aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent aussi présenter pas mal de facteurs qui peuvent impacter la santé mentale. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux justement pour le développement du lien social ?
Alors moi, je les vois plutôt comme un outil. Après, c'est vrai que je les vois comme un outil pour faciliter les relations, pour les développer. Mais ce qui va être important, c'est plutôt le niveau d'investissement. C'est vrai que dans les déterminants de la santé, tu as les ressources psychologiques et individuelles, tu as le contexte de vie, mais tu as surtout le tissu relationnel. En fait, ce qui est important dans le tissu relationnel, c'est finalement la densité de ce tissu. C'est vrai qu'un étudiant qui n'aurait que des relations ponctuelles, distantes, dans le cadre d'un réseau social, on pourrait penser qu'effectivement, ce tissu relationnel, il est relativement peu étayé, peu important. Et donc, ce qui est plutôt préconisé aujourd'hui, et on sait que ça favorise une meilleure santé mentale, c'est plutôt vraiment un tissu relationnel qui est investi, qui est développé, dans lequel on est acteur, on peut proposer quelque chose, on peut l'enrichir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être parfois un peu limités par rapport à ça. C'est plutôt une question d'équilibre, moi, je pense. C'est-à-dire que si effectivement le tissu relationnel se réduit à une simple participation, à un simple investissement dans tel ou tel réseau social, on peut penser que c'est pauvre. Mais aujourd'hui, pour moi, ça doit être une couche supplémentaire au tissu relationnel qu'on a par ailleurs. Après, on est en face aussi de générations qui fonctionnent aujourd'hui comme ça. Moi, j'invite les étudiants à conjuguer les deux, c'est-à-dire de, de pouvoir à la fois s'investir sur les réseaux sociaux tels qu'ils existent, mais de ne pas réduire leur investissement seulement à ça, parce que très souvent, effectivement, ce n'est pas suffisant ou ce n'est pas complètement satisfaisant. Et donc, c'est aussi de finalement, de parallèlement, d'expérimenter un investissement dans son quartier, auprès d'acteurs de son environnement de vie, auprès de ses proches. Et ça, c'est certainement une belle manière de, à la fois d'apporter de l'aide à d'autres, mais aussi d'avoir une hygiène de vie qui soit en faveur de sa propre santé mentale. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Oui, donc le changement viendra de l'individu, finalement, de l'éducation et de l'individu.
Oui, complètement. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a aussi le contexte de vie. C'est sûr qu'un étudiant qui vit dans un logement, dans un contexte de vie qui le rend particulièrement vulnérable, ça aura forcément un impact sur sa santé mentale aussi. Et ça, je pense que c'est malgré tout peut-être une des limites aujourd'hui. C'est-à-dire notre propre santé mentale, elle est liée aussi, bien sûr, au contexte de vie général, que ce soit politique, social, économique, culturel, notre logement. Ça, c'est un facteur qui est prépondérant hein, dans notre santé mentale. Et c'est des facteurs sur lesquels on peut difficilement agir. Alors, je pense qu'on peut agir. Il y a notamment les prochaines élections, là, dans quelques temps. Mais c'est vrai que c'est des éléments peut-être sur lesquels on peut peut-être agir le moins. Mais malgré tout, voilà, sur la question finalement de ce qu'on peut faire, je pense qu'il y a malgré tout énormément de leviers sur lesquels soi-même on peut agir.
Merci beaucoup, Arnaud. Est-ce que tu voudrais nous donner peut-être des liens si quelqu'un qui écoute l'émission veut te contacter, te rejoindre, où est-ce qu'il peut te contacter?
Alors, il peut me contacter sur notre site web, donc au niveau de l'Institut régional Jean Bergeret. Il suffit simplement qu'il tape sur n'importe quel moteur de recherche Institut régional Jean Bergeret à Lyon. Donc, on sera très heureux de pouvoir répondre à toute demande. Et puis, pour aller plus loin, voilà, je me tiens vraiment à l'écoute de tout le monde et de façon à pouvoir aussi orienter si besoin, si on n'est pas en mesure d'apporter les premières réponses, toute personne qui le souhaite. Et puis surtout, voilà, on est à la fois un établissement qui apporte du service, mais on est aussi un établissement militant, parce que pour nous, la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Donc on a vraiment à cœur de pouvoir porter ce sujet et puis en faire réellement un enjeu de société de demain, parce que je pense que, voilà, qu'on peut encore davantage faire sur la santé mentale, on peut encore mieux faire sur la santé mentale, en agissant plus tôt, en agissant mieux. Et c'est un sujet, je pense, qu'on peut aussi porter collectivement encore davantage. Donc nous, on sera toujours là pour le porter de cette façon-là, avec cet engagement et cette motivation.
Vous venez d'écouter Amour, Santé et Liberté, le podcast d'AIMI, la mutuelle des étudiants et des jeunes actifs. S'il vous a plu, pensez à le partager et à le faire découvrir autour de vous. En attendant le prochain épisode, retrouvez plus de contenu sur la santé et la prévention des risques sur notre site web aimi.care. À bientôt !